Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 17 novembre. Avec vous, Christophe Mallet et Jean-Noël Ducasse. Au sommaire, le journal Les Sports, le journal de la semaine en France. Et on parlera de Quabo, animé par la danseuse et chorégraphe Gracieuse Ama au Melbourne Fringe Festival. En ce moment même, il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce mardi 17 novembre, il y a 20 cas probables ou positifs de Covid-19 liés à un groupe familial en Australie méridionale alors que l'État continue de se battre contre un nouveau cluster de Covid-19. La société pharmaceutique Moderna affirme que son vaccin expérimental est efficace à près de 95% contre le Covid-19. L'Australie du Sud continue de se battre contre un nouveau cluster de Covid-19. Il y a 20 cas liés à une famille ce mardi, avec 3 cas traités comme actifs mais pas encore confirmés par les autorités sanitaires. Le cluster familial comprend un bébé d'un an et 3 jeunes enfants. Le ministre de la Santé en Australie du Sud, Stephen Wade, a déclaré sur l'ABC qu'il était ravi du nombre de gens qui se font tester.
We're urging South Australians to maintain that vigilance, even with the mildest of symptoms. We want people to get tested. In terms of SA Pathology and our public health team, we are blessed with a world-class team. We believe that we've got the capacity to ramp up as needed to meet the testing demand. We'd ask people to be patient. Obviously, with thousands of people going to get tested yesterday, there were delays, but we're working hard to make sure that we minimise those delays.
Des restrictions strictes sont en place concernant les pubs, les restaurants, les gymnases et les limites de rassemblement ont été appliquées ce mardi 17 novembre et vont durer 2 semaines. Stephen Marshall, le chef de l'État, a déclaré que les prochaines 48 heures révéleront si une deuxième vague catastrophique est sur le point de frapper l'Australie du Sud. Le médecin en chef adjoint de l'Australie, le professeur Michael Kidd, a déclaré sur Nine News que les prochaines 24 à 48 heures seraient cruciales.
So I think we need to see what happens over the next 24-48 hours. A large number of tests were carried out yesterday. I'm sure a large number of tests will be carried out today as well. We need to see the results. But most importantly, we need to see if there's been community transmission, yeah. So transmission beyond the family members and their immediate contacts. And that'll give us a bit of an idea as to what's going to happen over the coming weeks. But it is a very worrying time. It's a very disrupting time for everybody. But I guess that's been the pattern of 2020.
Le Victoria n'a enregistré aucun cas de coronavirus et aucun décès pour le 18e jour consécutif ce mardi. Il y a encore 3 cas actifs dans l'État. 2 de ces personnes restent à l'hôpital. La société pharmaceutique Moderna affirme que son vaccin expérimental est efficace à près de 95% contre le Covid-19. Les résultats sont basés sur les données intermédiaires d'un essai clinique avancé impliquant 30 000 volontaires. Moderna est la deuxième entreprise américaine en une semaine à rapporter des résultats positifs, plaçant ses concurrents sur la bonne voie pour demander l'autorisation en quelques semaines pour une utilisation d'urgence aux États-Unis. Le président de Moderna, le docteur Stephen Hodge, déclare qu'il y a beaucoup de travail à faire.
It's a really important milestone in the fight against the pandemic. It's really just a milestone, though. We have a lot of work ahead of us. Knowing the vaccine is going to be effective is great news, but we still need to complete the regulatory process, which involves completing the study and generating more data, even some follow-up and safety data. And then, of course, we need to get busy manufacturing.
Et maintenant, les précisions de Simon Rosé du service Science à Radio France Internationale.
94,5% d'efficacité pour Moderna. Nous sommes dans le même ordre de grandeur que le vaccin de Pfizer. Ce n'est pas si étonnant. Les deux candidats vaccins partagent la même technologie. Ils sont basés sur de l'ARN viral, une technique encore inédite pour un vaccin humain, mais dont les recherches préliminaires étaient prometteuses. Mais comme pour l'annonce de Pfizer la semaine dernière, il faut relativiser celle de Moderna ce lundi. Une nouvelle fois, c'est un communiqué de presse qui a été utilisé. Les données scientifiques de cet essai clinique ne sont pas encore publiques, même si un peu plus d'informations ont été partagées cette fois, notamment les résultats concernant les personnes âgées ou à risque. Il faut également rappeler que ces données ne sont que préliminaires et qu'il est tout à fait probable que cette efficacité annoncée diminue au fil de l'analyse de l'essai clinique. Cela dit, certes, il faudra la confirmer, mais cette annonce est une bonne nouvelle, d'autant plus que le candidat vaccin de Moderna évite un écueil rencontré par celui de Pfizer. Pas besoin de le conserver à moins 70 degrés, un réfrigérateur suffit pendant un mois, ce qui simplifiera énormément sa distribution.
La Commission européenne affirme avoir scellé un accord pour acheter jusqu'à 405 millions de doses d'un vaccin expérimental contre le coronavirus développé par la société allemande de biotechnologie CureVac quelques jours à peine après avoir obtenu un contrat avec BioNTech et Pfizer. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a déclaré qu'elle autoriserait le contrat avec CureVac ce mardi 17 novembre au nom des 27 pays de l'Union européenne.
If the vaccine has proven safe and effective against COVID-19, every member state will receive the vaccine at the same time, on a pro rata basis, and under the same conditions. We have already concluded exploratory talks with Moderna. We hope to finalize the contract soon.
Aux États-Unis, la vice-présidente élue Kamala Harris déclare que elle et le président élu Joe Biden n'ont pas un moment à perdre pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Joe Biden a également pris la parole et a déclaré que le plus rapidement son administration pourra avoir accès au plan de distribution de l'administration sortante, plus la transition sera rapide et moins il y aura de décès.
More people may die if we don't coordinate. If we have to wait until January 20th to start that planning, it puts us behind over a month, month and a half. And so it's important that it be done, that there be coordination now, now or as rapidly as we can get that done.
Jusqu'à présent, l'administration Trump refuse de partager ses plans de distribution de vaccins. L'État de Pennsylvanie aux États-Unis interdit complètement les rassemblements à l'intérieur pour ralentir une poussée de COVID-19 qui pourrait submerger les hôpitaux et tuer des milliers de personnes. Le commissaire à la santé de la ville de Philadelphie, Dr. Thomas Farley, a déclaré que la ville conseillait les résidents à rester chez eux. La ville prévoit également d'interdire les repas à l'intérieur dans les restaurants. Les casinos, les gymnases, les musées et les bibliothèques ferment dès ce vendredi 20 novembre jusqu'à au moins la fin de l'année.
While we won't prohibit people from leaving home and interacting, we want to strongly discourage that because it's increasingly unsafe to interact with anyone. So here are the specifics. We will prohibit indoor gatherings or events of any size in any location, public or private. It means no indoor parties, group meals, football watching groups, no visiting between households, no indoor weddings, funerals, baby showers. We know that's a very strong policy, but this gets at the most important sites of spread.
Et puis, interdiction de faire des pique-niques à l'île de la Réunion pour des raisons sanitaires, COVID-19 oblige. Explication de Lise Dumont pour RFI.
De la Ravine Blanche de Saint-Pierre aux rives de la rivière Langevin à Saint-Joseph, un seul qualificatif définit ce dimanche.
Désert.
Du coup, c'est l'occasion de profiter autrement de ces espaces habituellement très populaires. À la Ravine Blanche, par exemple, cette habitante s'est réappropriée le bord de mer.
D'habitude, on ne vient pas. Et pourtant, on n'habite pas loin. C'est que voilà, c'est plat. Et là, c'est vide. Et quand on est arrivé, il n'y avait personne. Trop bien. Donc on a emmené les enfants, là, ils s'amusent, tranquille. On a tout l'espace pour eux, et voilà.
À Grand-Anse, le vent souffle librement entre les palmiers. Quelques sportifs, des familles qui déambulent un peu de touristes aussi. On est très loin de l'affluence du dimanche.
D'habitude, il y a beaucoup de monde, surtout le dimanche. C'est plein.
D'habitude, c'est plein de monde, plein de pique-niques, et là, il n'y a rien du tout.
Et même ceux qui avaient l'intention de braver l'interdit ont laissé les marmites dans le coffre de la voiture.
Il n'y a personne qui est en train de pique-niquer, donc...
On est obligé de respecter. C'est libre point dimanche en tout cas, ça fait bizarre. Mais c'est agréable de venir faire une petite promenade, se balader.
Sébastien est propriétaire d'un snack bar. Pour lui, cette interdiction de pique-nique a une saveur amère.
Je vais aller compter 10 heures. Mais là, elle est déjà pleine là. Et comme les pique-niques sont été dits ce week-end, voilà, c'est nul. Plus de touristes, plus rien. Personne.
Les Réunionnais montrent donc du respect pour l'injonction du préfet. Mais les contrôles fréquents des forces de l'ordre n'y sont peut-être pas étrangers.
D'autres nouvelles de France, tout à l'heure avec Émile Matasso, après le journal des sports. La Pologne et la Hongrie bloquent le plan de relance de l'Union européenne. Précision de Pierre Benazé pour RFI.
Le blocage budgétaire de la Hongrie et de la Pologne n'est pas vraiment une surprise, mais il reste en travers de la gorge des négociateurs. Ils avaient triomphalement annoncé un compromis mardi dernier après de longues tractations. Ce compromis est maintenant menacé, car la Pologne et la Hongrie rejettent l'ensemble du paquet financier, à la fois le plan de relance et le budget commun. Le veto de la Pologne et de la Hongrie est toujours lié au rejet par les deux pays du lien avec l'état de droit. La conditionnalité avait pourtant été l'objet d'un accord début novembre. Privation de fonds européens en cas de non-respect de l'indépendance de la justice ou de frein aux libertés de la presse ou de l'enseignement, par exemple. Le président du Parlement européen, David Sassoli, s'est donc félicité un peu vite mardi dernier quand il affirmait qu'il ne serait pas possible de revenir en arrière. Selon les gouvernements polonais et hongrois, cette conditionnalité est directement dirigée contre eux et contre l'Europe centrale en général. Reste donc maintenant à voir si ces deux pays sont prêts à provoquer une grave crise ouverte en s'arc-boutant sur leur veto.
Et puis le conflit du Haut-Karabakh qui a pris fin et l'Arménie a obtenu un délai pour évacuer la région de Kalbajar, zone voisine du Haut-Karabakh, conquise par l'Azerbaïdjan. Reportage de l'envoyé spécial de RFI, Anissa El-Jabri.
C'est un drapeau russe qui flotte désormais dans la brume sur l'ancien poste frontière entre l'Arménie et le Haut-Karabakh au tout début du corridor de Latchin. Vérification d'identité du contenu des coffres, motif du déplacement. Les Arméniens tiennent bien 4 contrôles en 17 km sur la route en lacet, mais ce sont les Russes qui garantissent la sécurité le long du trajet. Ce sont leurs tireurs d'élite qui sont postés sur les balcons et les toits des maisons du village de Bertsor.
Les Russes, c'est notre espoir. Sans eux, on ne serait plus ici depuis longtemps, car les Azéris ont tellement d'armes qu'on n'aurait pas pu lutter.
Ce grand-père aux cheveux blancs, encore éprouvé par les bombardements intenses et jusqu'à la dernière minute du conflit sur ce village, un village où la vie reste encore très précaire.
Dans mon magasin, il n'y a pas d'électricité. On l'attend pour ce soir. Mais pour la ville et les habitants, ça prendra encore quelques jours. Les poteaux électriques sont à terre, sur la route. On attend leur réparation.
Bonnet bleu marine enfoncé jusqu'aux yeux sur un visage marqué par la fatigue et l'angoisse, l'épicier ne vend plus que des cigarettes, quelques gâteaux secs et du café froid. L'approvisionnement est de toute façon encore très aléatoire. Aucune femme ni aucun enfant dans le village. Bertsor se demande encore s'il restera bien en territoire arménien.
Au Sénégal, avec la question des pirogues de réfugiés qui se dirigent vers l'Europe, et il y a eu plusieurs naufrages avec des pertes de vie, et le calife des Mourides s'est prononcé contre l'émigration clandestine. Précision de Charlotte Hydrac pour RFI.
Prendre une pirogue en bravant la mer pour aller en Europe est un acte de suicide banni par l'islam. Le message de Zérine Mountaham Baké est très clair. Le ralif général des Mourides énonce donc un digel, autrement dit une recommandation, et appelle les candidats au départ à renoncer à l'émigration irrégulière. Dans l'islam, il est normal d'aller chercher de meilleures conditions pour vivre et prendre soin de ses proches, affirme son porte-parole. Mais la religion interdit toute pratique qui mène à la mort. Toute personne qui doit voyager doit le faire dans les règles. L'émigration clandestine n'est pas une solution, insiste le guide religieux. Dans son message, le ralif général le reconnaît, la conjoncture économique est difficile partout, le chômage une réalité, mais il invite les jeunes à la patience. Il déplore un nombre de morts effroyable et cite le cas du village de Mbengen dans la région de Louga où une vingtaine de personnes, tous des disciples mourides, sont décédées. Une déclaration qui intervient alors que dans le débat politique et sur les réseaux sociaux, des voix s'élèvent pour dénoncer un silence des autorités sur les récents naufrages.
En Australie à nouveau, plus de 400 000 Australiens recevront une compensation après que le gouvernement a accepté de régler un recours collectif de 1,2 milliard de dollars contre le programme de recouvrement des dettes sociales. Il s'agit du plus grand paiement de recours collectif de l'histoire du pays. Andrew Grech, du cabinet d'avocats Gordon Legal, qui dirige ce recours, déclare que si le règlement est approuvé par le tribunal, l'indemnisation sera équitablement répartie.
The payments will be determined according to a very detailed time-based formula. The court will have to approve that process to ensure that it's satisfied, that it's fair to each and every group member. And group members will have an opportunity to review the detail of that process in the lead up to the court approval process, so that if group members want to object to any aspect of the settlement, they're very entitled to, and the court will of course consider those objections before it approves.
Le trésorier de la Nouvelle-Galles du Sud, Dominique Perrottet, présente ce mardi ce que l'on appelle le budget de l'État le plus important de toute une génération, en se concentrant sur l'emploi et l'économie. Une mesure de relance massive est au cœur du budget. Chaque adulte de l'État recevant 4 bons d'achat séparés d'une valeur de 100 dollars à dépenser pour les repas, les divertissements et les loisirs. Les bons d'achat qui seront disponibles au début de l'année prochaine sont conçus pour injecter au moins 500 millions de dollars dans l'économie qui est à la traîne et doivent être utilisés séparément et non combinés en une seule transaction afin de générer encore plus de dépenses. Le Premier ministre australien Scott Morrison sera le premier dirigeant étranger à rencontrer Yoshihide Suga au Japon ce mardi, depuis que ce dernier a succédé à Shinzo Abe au poste de Premier ministre en septembre dernier. Un accord historique sur les troupes et l'énergie est à l'ordre du jour lorsque les deux dirigeants vont se rencontrer. On s'attend à ce qu'ils signent un accord de défense pour l'utilisation par chaque nation des bases militaires de l'autre, ce qui ouvrira la voie à davantage d'exercices militaires, y compris en mer de Chine méridionale. On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 24 degrés, Adélaïde 25, Melbourne 20, Hobart 19, Canberra 24, Sydney 21, Brisbane 31, Cairns 31 également, Darwin maximal de 36 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 17 novembre. Il y a 20 cas probables ou positifs de Covid-19 liés à un groupe familial en Australie méridionale où l'État continue de se battre contre un nouveau cluster de Covid-19. La société pharmaceutique Moderna affirme que son vaccin expérimental est efficace à près de 95% contre le virus. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Des sports, et on commence avec de la Formule 1 et le 7e titre mondial pour le Britannique Lewis Hamilton. Alors, c'était pas vraiment une surprise, on savait que ça allait se jouer sur ce Grand Prix là ou le prochain Grand Prix, mais en tout cas, le chiffre de 7 titres mondiaux, eh bien Lewis Hamilton égale le grand Michael Schumacher, comme nous l'explique Eric Diramzin.
Il n'y aura sans doute jamais de net vainqueur objectif au petit jeu des comparaisons entre ces deux carrières hors normes, mais le nouveau sacre de Lewis Hamilton éloigne un peu plus son illustre aîné du champ de vision de son rétroviseur. Car au-delà du 7e titre, le Britannique a effacé des tablettes cette saison deux autres records détenus par Michael Schumacher, le nombre de podiums en Grand Prix, 163 contre 155, et celui des victoires, désormais 94 contre 91, une moisson loin loin de s'arrêter si son équipe Mercedes reste aussi performante. Les flèches d'argent, le surnom de ces voitures, n'ont pas de véritable rival sur le circuit depuis 2014, année de l'introduction des moteurs hybrides. Une autre évolution de la réglementation technique en 2017 sur le poids des voitures et l'aérodynamisme n'a pas eu plus d'effet. Le seul échec d'Hamilton dans la conquête du titre en 2016 sera finalement causé par la réussite de son coéquipier de l'époque, l'Allemand Nico Rosberg. Cette année encore, la concurrence a dû se contenter de miettes. Seuls 4 Grands Prix sur 14 pour l'heure ont échappé à la mainmise du champion du monde. Deux d'entre eux ont été remportés par le Néerlandais Max Verstappen et le Français Pierre Gasly, représentant d'une nouvelle génération qui aura sans doute encore du mal à se frayer d'autres chemins vers la victoire si Hamilton prolonge bien avec son écurie un contrat qui s'achève.
Eric Diramzian donc avec cette analyse de la carrière de Lewis Hamilton. Allez, une réaction, celle du champion Lewis Hamilton.
Franchement, j'ai le sentiment d'avoir réalisé l'une de mes meilleures courses ce dimanche. J'ai l'impression que je continue à m'améliorer. Pour l'instant, je vais savourer ce titre. En début d'année, je me projetterai sur les prochaines échéances, sur ce que je peux faire de mieux. Je veux rester au sommet. Je ne pense pas encore avoir atteint mes limites.
What I can say is I do want to stay here. I don't feel like I've hit the limit yet.
Voilà donc le septuple champion du monde, Lewis Hamilton. Allez, par le football maintenant et après leur belle victoire contre le Portugal en Ligue des Nations, eh bien les Français joueront cette semaine contre la Suède. Un match pas forcément facile, surtout après le piège que les Français ont dû affronter contre la Finlande et cette défaite 2-0 contre la Finlande. Toujours est-il que c'est le dernier match de l'année pour les Français. Ils auront donc cœur à bien faire. Le résultat des autres matchs de la Ligue des Nations avec Eric Chourin.
Tielemans et Mertens ont marqué les deux buts de la victoire de la Belgique face à l'Angleterre. Mais comme le Danemark s'est imposé avec un doublé d'Eriksen face à l'Islande de 2-1, ça se jouera lors de la dernière journée. Belgique-Danemark, confrontation directe mercredi. Pareil dans l'autre groupe qui jouait ce soir. La Pologne qui pouvait se qualifier s'est inclinée en Italie 2-0 alors que les Pays-Bas l'ont emporté 3-1 face à la Bosnie. Bosnie-Herzégovine, un doublé de Wijnaldum, un but de Memphis Depay qui relance aussi les Néerlandais dans ce groupe. L'Italie est en tête, un point devant les Néerlandais et deux points devant les Polonais. Ça va jouer donc dans les deux matchs qui vont venir, Pologne-Pays-Bas et Bosnie-Herzégovine-Italie. Et puis, rappelons-le, mardi, eh bien, il y aura aussi le match Espagne-Allemagne décisif pour la qualification pour ce Final Four. Les Allemands peuvent se contenter d'un nul alors que les Espagnols vont devoir l'emporter.
Eric Chourin, donc. Allez, on continue sur le football et la belle histoire des qualifications de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, avec les Comores. Les Comores, eh bien, une sélection qui n'existait tout simplement plus il y a quelques années. Ils sont en passe de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations, puis de belle manière, ils sont en tête de leur groupe, Marie-Amélie Motte.
Les Comores, une sélection qui avait cessé d'exister il y a quelques années et qui domine maintenant le groupe G devant l'Égypte, sextuple vainqueur de la CAN, mais aussi le Togo et le Kenya. Le Kenya battu par les Comoriens ce dimanche, succès 2-1. Les hommes d'Amir Abdou comptent désormais 5 points d'avance sur leur adversaire du soir. En clair, les Comores et leurs sélectionneurs sont à 1 point de leur rêve.
Très heureux, on est content pour le peuple. Voilà, ici c'est la folie. Mathématiquement, on n'est pas qualifié, mais voilà, on est en bonne posture. On a quand même 8 points. Non, on est confiant. L'équipe n'a rien lâché et on a pu aller chercher cette victoire. C'est un rêve pour nous, pour un peuple. C'est un travail de longue haleine et c'est une progression normale pour nous. Il y a une véritable cohésion, puis on n'a pas de stars. Voilà, ils sont tous déterminés à aller chercher quelque chose ensemble.
Amir Abdou, le sélectionneur des Comores, au micro d'Hugo Moissonnier.
Voilà donc pour le football, allez, un mot de voile, vous le savez peut-être, c'est le Vendée Globe en ce moment, qui est d'ailleurs à suivre sur SBS On Demand. Si vous êtes un fan de voile, il y a des résumés sur le Vendée Globe sur SBS pour vous et c'est gratuit bien entendu. Voici quelques réactions des skippers impliqués dans le Vendée Globe.
Et moi depuis 4 ans, je vis dans l'objectif d'essayer de gagner le Vendée Globe et quand ça s'arrête comme ça brutalement, c'est super violent quoi.
Bien, on dirait qu'il y a du monde à la fenêtre. C'est Thomas Ruyant. Voilà, on est à bord, on approche des Açores.
Vous savez à quoi on reconnaît un lacustre? C'est le mec qui a la Shkoumoun. Tout le temps, il est tout le temps dans zéro nœud de vent.
La dépression Theta, c'est une dépression dite tropicale. Si vous chargez une carte des vents, vous la verrez, avec du vent qui tourne bien en rond autour d'elle, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et du vent bien fort aussi, hein, qui tourne bien rond et bien fort, et aussi avec beaucoup de mer associée.
Super bonne nouvelle du jour, mon réservoir de gasoil s'est désolidarisé, et du coup, voilà, j'ai plein de gasoil partout dans le bateau.
Ok, il y a 2 heures, j'avais pas de vent, maintenant il y a 30. Le bateau il avance en feu autour de 25 nœuds. Donc il faut rentrer, sortir, choquer, border pour que le bateau il avance bien. Voilà. C'est ça ma matinée en fait, c'est
choqué-bordé, choqué-bordé. Et ben voilà, ça y est, opération fixation du réservoir terminée. Donc j'ai mis des espèces de plots bleus là comme on voit derrière, c'était mon coussin pour faire des étirements, comme quoi c'est réutilisable.
Il y a un beau nuage derrière. Eh, on est contents les gars. Devant ils se barrent, derrière ils reviennent et nous on est collés. C'est magnifique.
Vendée Globe, quelle belle aventure. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. À tout de suite.
SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au/food.
Et comme chaque semaine, on va décrypter 7 jours d'actualité en France avec Émile Matasso. Bonjour Émile.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Alors à la une, la France toujours en mode de confinement et des signes d'impatience dans la population.
Oui, alors jeudi dernier, le Premier ministre Jean Castex s'est exprimé. Il a fait le point après les 2 premières semaines du reconfinement imposé donc par les autorités. Et comme attendu, bien le chef du gouvernement a assuré que les restrictions en place allaient être prolongées au moins jusqu'au 1er décembre. Jean Castex a laissé entendre toutefois que les commerces devraient avoir le droit de rouvrir le 1er décembre avec un protocole sanitaire très strict et qui reste encore à déterminer. Et tout cela sous réserve, bien entendu, que les signes encourageants qui montrent que le confinement est en train de ralentir la diffusion du virus, sous réserve que ces chiffres se confirment. Ces derniers jours, on est revenu à 30 000 nouveaux cas positifs de décelés quotidiennement. Alors en soi, cela reste énorme, 30 000 nouvelles personnes positives par jour. Mais c'est bien mieux que les plus de 50 000 du début du mois, quand tous les clignotants sont passés au rouge. Et n'oublions pas qu'on a encore, alors qu'il est, quelques 6500 personnes qui se trouvent en réanimation. En tout cas, il y a, oui, des signes encourageants, et c'est ce qui permet au ministre de la Santé, Olivier Véran, eh bien, de déclarer ce lundi que, certes, il est clairement trop tôt pour crier victoire et relâcher nos efforts, mais que nous reprenons, c'est ce qu'a dit le ministre de la Santé, le contrôle de l'épidémie. Olivier Véran qui a ajouté « c'est une bonne nouvelle ». Olivier Véran, encore ce lundi, qui précise « le second confinement porte ses fruits ». Il y a donc ces signes-là auxquels on se raccroche, mais aussi, il faut bien le dire, une grande lassitude dans la population, de l'exaspération, de l'impatience, avec cette deuxième vague, ce deuxième confinement qui est imposé. Le secteur de la culture, les libraires qui font le forcing pour rouvrir, tous les petits commerces de proximité qui ont dû fermer et qui essaient aussi, eh bien, de faire pression sur le gouvernement, de se mobiliser. Les catholiques qui réclament qu'on lève l'interdiction des messes publiques, etc., etc. Le gouvernement doit faire face à cette fronde. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, alors il est dans ce rôle, il s'est quasiment mis du côté des commerçants, lui, hein, quand il avance que la réouverture est vitale pour les commerçants. Il se met de leur côté et il met la pression sur l'exécutif. Et on sent bien qu'il y a différentes façons de voir les choses selon que vous êtes le ministre de la Santé, Olivier Véran, ou le ministre de l'économie, comme Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui a donc rappelé que les libraires, les bijoutiers, les magasins de jouets faisaient la moitié de leur chiffre d'affaires dans les 2 mois de fin d'année. Hein, c'est lui qui a utilisé ces mots-là, et il promet donc que de nouvelles aides vont être débloquées par le gouvernement, 20 milliards de plus pour aider les petits commerces en cette fin d'année. Le gouvernement va mettre en place notamment un système de prise en charge des loyers des surfaces commerciales, hein, car c'était là l'une des principales revendications des commerçants. Quand votre magasin est fermé, il faut continuer à payer le bail, l'allocation des locaux. L'État qui pourrait aussi aider les commerçants qui resteraient avec des quantités de stocks, des invendus très très importants. La situation est critique. Il y a une colère sourde qui monte avec toute une frange de la population qui estime qu'elle paie l'addition du confinement pour les autres. Et donc l'objectif plus que jamais, c'est la réouverture des commerces dans une semaine, le 1er décembre, avec des protocoles qui devraient imposer un nombre minimum très restreint de personnes en même temps dans un même magasin. Mais au moins, les magasins devraient pouvoir rouvrir avec des amplitudes horaires étendues jusqu'à 22 heures peut-être, et la possibilité pour tous les commerçants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui même en temps normal, hein, il faut se trouver dans une zone touristique, en tout cas il y a des dérogations très, très précises, la possibilité peut-être pour tous les commerçants de pouvoir ouvrir les dimanches.
Alors dans cet ordre d'idées, une pétition circule en France pour stopper Amazon.
Oui, Amazon et les ventes en ligne qui profitent à plein du confinement. Tout ce que vous ne pouvez plus acheter en magasin, eh bien vous pouvez toujours le commander en ligne, notamment chez le géant Amazon. 120 signataires ont donc lancé cette pétition, des responsables politiques, syndicaux, des responsables du monde de l'édition, qui lancent un appel pour stopper Amazon. Il demande l'instauration d'une taxe exceptionnelle, une taxe sur le chiffre d'affaires du géant de l'e-commerce qui viendrait soutenir cette taxe, les commerces de proximité frappés, nous venons de le voir, de plein fouet par le confinement. Alors dans cette lettre pétition, on peut lire que Amazon est en totale contradiction avec la profonde aspiration à des vies décentes sur une planète vivable. Amazon, dans cette pétition, est désigné comme un profiteur de la crise, et une taxe permettrait, selon les signataires, de financer les mesures de préservation de l'emploi et le fonds de solidarité pour les commerces de proximité. Derrière cette pétition, bien entendu, il y a un parti pris politique. Parmi les signataires, vous trouvez la CGT, des responsables d'ONG, le mouvement Attaque, mais aussi le chef de file de la France Insoumise, qui l'a signé, hein, Jean-Luc Mélenchon, le Parti communiste, ou encore Europe Écologie Les Verts, à l'image du maire de Grenoble, Éric Piolle. Le problème avec Amazon, il n'est pas nouveau, mais il explose plus encore en cette période de pandémie. Ce qui choque les citoyens, c'est de voir que la société de Jeff Bezos, elle échappe à la fiscalisation, hein. Contrairement à un commerce classique, Amazon ne paie pas d'impôts, pas de taxes à l'État français, malgré les milliards et milliards de chiffres d'affaires générés. Vous êtes en France, vous commandez à Amazon, mais l'entreprise se débrouille par des montages financiers très habiles pour que cette commande dépende d'une holding qui est au Luxembourg ou je ne sais où dans le monde où on paie, où on ne paie pas d'impôts ou alors très très peu. C'est tout ce système-là que dénoncent les signataires dans cette pétition, et ils accusent directement le gouvernement et le président de la République, Emmanuel Macron, de, je cite, « dérouler le tapis rouge à Amazon en interdisant à tout le monde de vendre des produits non essentiels, sauf aux géants de la vente en ligne ».
Merci Émile d'avoir décrypté l'actualité française pour nous cette semaine.
Merci, merci, à bientôt.
À la semaine prochaine. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au/chill.
h 43 sur les ondes de Radio SBS, vous écoutez le programme en français. Et dans 36 secondes, je passe l'antenne à mon collègue Bertrand, qui a rencontré Gracieuse Ama, qui présente Quabo, Melbourne Fringe Festival, en ce moment même.
Avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
J'ai le plaisir d'accueillir sur les antennes de la radio SBS la danseuse chorégraphe internationale Gracieuse Amar, et on s'entretient en marge de la Melbourne Fringe Festival ou Festival Avant-Garde de Melbourne. Bienvenue sur les antennes de la radio SBS, Gracieuse.
Merci beaucoup Bertrand, merci de m'accueillir sur les ondes, je suis contente d'être là.
Votre participation dans ce festival est un des éléments phares, un des éléments les plus attendus. Parlez-nous de votre participation dans ce festival.
Melbourne Fringe Festival, c'est un festival qui réunit plusieurs artistes et chaque artiste va produire son propre show. Donc moi, je fais partie des artistes qui produisent leur propre show. Et donc, je produis un festival artistique qui inclut la danse, l'art visuel et le slam et l'écriture de poèmes. Quabo from Benin, c'est la deuxième édition que j'organise. Donc, j'avais organisé la première édition en 2018 dans le cadre de mon master à Melbourne Polytechnique.
Oui.
Et la première année, le festival était une recherche sur les moyens que je pourrais utiliser pour valoriser la culture africaine et en même temps permettre l'intégration des immigrés en Australie et des immigrés, que ce soit africains ou français, en Australie, pour créer une communauté unie avec des personnes qui ont des cultures et des nationalités différentes. Cette année, j'ai souhaité aller un peu plus loin avec la deuxième édition et le festival est ma réponse, aux événements récents de Black Lives Matter et de la pandémie qui ont créé beaucoup de discrimination raciale, de traumas, de troubles mentaux. Et du coup, c'est une proposition à la communauté, que ce soit la grande communauté, mais également la communauté africaine et toutes les personnes immigrées en Australie, de célébrer leur culture. Et aussi de montrer qu'on peut célébrer différentes cultures, qu'elles soient unies tout ensemble, et créer une vision plus inclusive de la culture. Parce qu'en Australie, il y a une culture qui est très dominante, et les autres cultures sont un peu moins dominantes. Souvent, c'est une cause de trauma pour les personnes qui font partie de ces minorités-là. Et donc, j'ai souhaité, à travers ce festival, donner l'opportunité à ces minorités de s'exprimer sous différentes formes artistiques.
Oui, d'accord. Et il faut souligner que vous êtes, danseuse chorégraphe internationale. Vous avez des origines françaises et africaines.
Tout à fait. Béninoise et togolaise.
Béninoise, française, togolaise. Et Quabo, ça signifie quoi?
Donc, Quabo, ça signifie, au sens littéral, bienvenue. Pour moi, ça signifie plus que bienvenue, parce que le bienvenue qu'on entend, en tout cas au Bénin et au Togo, c'est pas juste le fait d'accueillir quelqu'un. C'est le fait de célébrer cette personne-là et de la faire intégrer dans notre communauté et de l'accepter telle qu'elle est, avec toute l'histoire et toute l'expérience que cette personne aura et aussi la culture que cette personne a. Ce type de célébration enveloppe beaucoup d'art et donc la danse. Et quand on parle de danse africaine, ça englobe la musique, le chant, l'art visuel, parce que vous verrez les personnes avoir des accoutrements et des tenues traditionnelles qui sont très très belles à voir. Et également le design, c'est vraiment culturel dans tous les sens du terme. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu créer cette plateforme-là et le festival. Dans tous les aspects que l'art peut avoir. en tout cas donner la possibilité dans certains arts en particulier, donc la danse, l'art visuel et l'écriture de poèmes et l'écriture de musique.
En tout cas, ça promet de détonner fort. J'ai vu les publicités donc, de ce festival. Ils disent Kwabo va vous sortir de la morosité ambiante. Donc...
Ça, c'est sûr. C'est toujours garder l'esprit positif dans la diversité, quoi qu'il se passe. Parce que dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Et ma philosophie de la culture africaine et de la danse africaine, c'est que la danse africaine, surtout moderne, est utilisé comme un médium ou comme un moyen de faire face à l'adversité et aux challenges et d'unir une nation qui subit les mêmes catastrophes ou les mêmes conditions qui peuvent être difficiles et de les garder positifs, d'avoir un esprit positif et de toujours aller de l'avant. Parce que, après tout, une fois qu'on a une bonne motivation et la mentalité qu'il faut, il peut surmonter tous nos problèmes. Mais il faut avoir un esprit et un mental positif.
Sur le programme du festival, j'ai vu que votre participation est divisée en plusieurs composantes. Vous avez Kwabo Mosaïque, Kwabo Flash Dance, Flash Mob Dance, il y a Afro Dance and Storytelling, il y a plusieurs composantes. Mais est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots les différents aspects de ces différentes formes de performance?
Le festival offre trois types de workshops, d'activités, donc danse, art visuel et l'écriture de poésie ou de slam pour pouvoir le réciter à l'oral.
Ouais.
Et le but de chacun de ces workshops, de ces sessions, est de créer une contribution qui va permettre de créer Kwabo Mosaïque.
Ouais.
Donc Kwabo Mosaïque, c'est une plateforme visuelle qui va réunir toutes les contributions de tous les participants et qui va honorer tous les participants en montrant une animation à l'écran d'un participant qui aura fait le workshop de danse ou d'un autre participant qui aura fait le workshop d'écriture de poèmes et de slam. Et donc du coup c'est une animation pour montrer que on forme tous ensemble quelque chose de magnifique et quelque chose de beau. Tout le monde a une part et tout le monde a une place à jouer et une place à prendre.
Et il faut s'habiller traditionnel, africain, de couleurs vibrantes.
Vu que c'est une célébration de l'identité culturelle de chacun des participants, si c'était possible, j'aimerais que les participants choisissent des habits dans lesquels ils se sentent confortables, qui représentent leur identité culturelle.
D'accord.
Parce que l'identité culturelle, c'est le fait d'avoir grandi dans un pays et d'avoir été éduqué dans un pays, d'avoir les marqueurs de ce pays. Donc du coup, quelqu'un qui se trouve en Australie a aussi une identité culturelle. D'avoir des accoutrements traditionnels, ça serait très bien, mais surtout qu'il soit à l'aise dans les vêtements qu'il choisisse.
Ouais.
Et d'avoir de bonnes chaussures.
Ouais, parce qu'à la fin, ça promet de bien bouger. Ça promet de culminer avec une grande danse party. Dites-nous.
Ça terminera une grande festivité le samedi où tous les participants vont se réunir et on va montrer justement la mosaïque. Et c'est là où les danseurs qui auront participé au workshop vont pouvoir faire la flash mob. Donc, du coup, on aura un DJ live, une session où tout le monde pourra danser. Et j'invite tout le monde à pousser vos meubles, peut-être de la place dans votre salon si vous suivez en ligne. Ou sinon, si vous êtes avec d'autres amis dans un parc, soyez sûr d'avoir une bonne distance entre vous. Et profitez de la musique et voilà, amusez-vous.
Est-ce qu'on peut s'enregistrer et garder une vidéo, garder au moins un souvenir de cet événement?
C'est le but.
Ouais.
Toutes les contributions sont bonne à prendre dans le sens où le plus de contributions on aura, la mosaïque sera de plus en plus belle. Donc tous les danseurs peuvent s'enregistrer et l'envoyer, ça fera partie de la mosaïque. Toutes les personnes qui n'assistent pas au workshop mais qui souhaiteraient quand même participer à la mosaïque ont aussi l'occasion d'écrire soit un mot de dessiner quelque chose qui représente leur identité culturelle, ou de représenter un futur dans lequel toutes les cultures sont célébrées de la même façon et sont respectées de la même façon et incluses de la même façon. Pour rappel, si vous ne pouvez pas participer au workshop, c'est tout à fait, il n'y a pas de souci. Regardez le site internet quoibeaufestival.org et vous verrez comment vous pouvez participer malgré le fait que vous ne puissiez pas participer au workshop.
D'accord. Moi, je vais me connecter, mais sans caméra.
Mais non, il faut se connecter avec une caméra, sinon c'est pas drôle.
Non.
Sinon, vous pouvez juste prendre une photo avec une tenue traditionnelle ou un élément qui vous rappelle votre culture ou même avoir plusieurs personnes sur la photo en respectant les distances, bien sûr.
D'accord.
Mais ça peut être... Tout est libre, c'est ouvert.
D'accord.
Vous pouvez utiliser votre imagination.
Ok, on fait passer le message. Merci infiniment et à très bientôt, Gracieuse.
Merci à vous.
Au revoir.
Et bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.
Et enfin, d'émission, un rappel des grands titres de ce mardi 17 novembre. Il y a 20 cas probables ou positifs de Covid-19 liés à un groupe familial en Australie méridionale où l'État continue de se battre contre un nouveau cluster de Covid-19. La société pharmaceutique Moderna affirme que son vaccin expérimental est efficace à près de 95% contre le Covid-19. Pause musicale maintenant en compagnie de Charlotte Fever qui nous interprète La Fille du Ciel. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français.
Vedette de l'univers, ta chevelure s'embrase au contact des astres. Pour toi, je donnerai n'importe quoi. Dans la nuit sombre, une poussière d'or illumine son sillage. On est tous fans.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.